Bonjour, au micro Idrissa Seloudia. Dans cette édition du Monde aujourd'hui, la campagne présidentielle américaine, le président républicain Donald Trump et son rival démocrate Joe Biden se sont affrontés jeudi soir sur la gestion de la pandémie et ont échangé des accusations de corruption lors de leur ultime duel télévisé à Nashville dans le Tennessee, à une dizaine de jours de l'élection du 3 novembre. Une page spéciale sur ce débat et l'histoire des débats dans moins de 5 minutes avec Jean-Roger Bion et Abdulrahman Dia. Et puis les États-Unis ont sanctionné jeudi les gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de Téhéran, ainsi que des médias iraniens pour tentative d'ingérence dans les élections américaines du mois prochain, malgré les démentis de l'Iran. Pour sa part, la Russie a jugé jeudi tout à fait infondé de nouvelles accusations de Washington selon lesquelles elle aurait mis la main avec l'Iran sur les données d'électeurs américains. Au Nigeria, déception et stupéfaction jeudi après le discours du président nigérian Muhammadu Buhari qui s'est montré intransigeant face au soulèvement populaire dans le sud du pays et n'a pas mentionné la répression sanglante qui a ému le monde entier. Nous retrouverons notre correspondant à Abuja, Gilbert Tamba. En Guinée, la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, a publié jeudi soir les résultats de l'élection du 18 octobre dans 17 nouvelles circonscriptions sur le territoire national, en plus des circonscriptions à l'étranger. Seules 3 circonscriptions manquent encore, une en Guinée, 2 à l'étranger. Avantage au président sortant Alpha Condé dans un contexte de vives tensions et contestations de la régularité du scrutin. Nous aurons de Conakry notre correspondant Zakaria Camara. En Côte d'Ivoire, l'opposition a rejeté jeudi les concessions proposées par le pouvoir sur une réforme de la commission électorale pour mettre fin à son boycott de l'élection présidentielle du 31 octobre. Abdulrahman Dia nous en parlera dans quelques instants. Au Burkina Faso, 13 candidats, dont le président Roch Kabore, qui brigue un second mandat, et les principaux favoris ont été retenus pour l'élection présidentielle du 22 novembre au Burkina Faso. A annoncé jeudi, le Conseil constitutionnel a été recalé pour non-paiement de la caution de 25 millions de francs CFA, Kindo Haruna. Au Mali, l'armée a annoncé être arrivée jeudi dans une localité du centre du pays, assiégée depuis 2 semaines par des hommes armés, généralement présentés comme des djihadistes. Farabougou, dont le sort suscite un intérêt considérable, la localité constituant un test pour les nouvelles autorités dominées par les militaires après le coup d'État du 18 août. L'Organisation mondiale de la santé a promis jeudi de déployer des nouveaux tests rapides pour diagnostiquer les cas de COVID-19 en Afrique, l'une des régions du monde les moins affectées par la pandémie, selon un communiqué. L'utilisation généralisée de tests rapides de haute qualité en Afrique peut révolutionner la réponse du continent au virus, a déclaré le docteur Matshudiso Moeti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique. L'Agence américaine des médicaments, la FDA, a accordé jeudi une autorisation permanente au médicament antiviral Remdesivir pour les malades hospitalisés du COVID-19, confirmant l'autorisation conditionnelle accordée en mai selon son fabricant Gilead. Plus de 2 Français sur 3 devront rester chez eux le soir à partir de samedi en raison de l'extension du couvre-feu nocturne à une grande partie du territoire afin de lutter contre la 2e vague du coronavirus, a annoncé jeudi le Premier ministre français. Quelque 46 millions de Français seront désormais concernés par le couvre-feu. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, Washington DC, en votre compagnie Idrissa Seloudia, restez à l'écoute pour la suite de nos informations. La suite de nos informations, tout d'abord, la présidentielle américaine du 3 novembre. Le président républicain Donald Trump et son rival démocrate Joe Biden, plus posé que lors de leur premier débat, se sont affrontés jeudi soir à Nashville dans le Tennessee lors de leur ultime duel télévisé. Les deux candidats à la Maison-Blanche ont échangé de nombreuses accusations sur de nombreux thèmes à 12 jours de la présidentielle du 3 novembre. Le point avec Jean-Roger Dion.
Les échanges, bien que vifs, étaient nettement plus audibles que la fois précédente et avaient une tonalité plutôt constructive et respectueuse. Les deux candidats à la présidentielle, Joe Biden, 77 ans, et Donald Trump, 74 ans, ont visité les thématiques de la pandémie du coronavirus, les questions raciales, la corruption, l'assurance santé, les changements climatiques et la sécurité nationale.
I made it clear that any country, no matter who it is, that interferes in American elections will pay a price. They will pay a price. It's been overwhelmingly clear this election.
À propos de sécurité nationale, alors que le directeur du renseignement national américain a fait part mercredi de tentatives d'interférence de la Russie et de l'Iran dans l'élection présidentielle, Joe Biden a fait part de son étonnement que Donald Trump n'ait rien dit. Je ne sais pas pourquoi il ne dit rien à propos de cela, a ajouté le candidat démocrate. Quiconque interférera dans une élection paiera le prix si je suis élu, déclare Joe Biden.
There has been nobody tougher on Russia than Donald Trump. And I'll tell you, they were so bad, they took over the submarine port.
Personne n'a été plus dur à l'égard de la Russie que Donald Trump, dit le président sortant en parlant de lui-même à la troisième personne. Il accuse son rival d'avoir reçu de l'argent de pays étrangers, ce que demande Joe Biden. La Russie vous paie beaucoup, la Chine vous paie beaucoup, répond le démocrate, évoquant les entreprises de Donald Trump et le refus de celui-ci de communiquer ses déclarations de revenus. Donald Trump a su que les acteurs étrangers cherchant à interférer dans le scrutin veulent sa défaite. Renvoyant aux propos du directeur du renseignement national. Il veut que je perde, a-t-il dit notamment. Pour clore le débat à la question de savoir ce qu'il dirait en cas de victoire aux électeurs américains n'ayant pas voté pour lui, Donald Trump a répondu : nous sommes sur la voie du succès, mettant en garde contre le danger représenté selon lui par une victoire de Joe Biden. Joe Biden a lui mis en avant sa volonté d'unir les Américains lors de ce qui a constitué l'ultime intervention de la soirée après une minute de temps de parole pour les deux candidats en clôture du débat.
Sur l'histoire et l'importance des débats présidentiels, Abdulrahman Dia a joint ici à Washington notre ancien collègue Claude Porcella, ancien chef du service francophone de la Voix de l'Amérique.
Je pense personnellement que les débats qui ont eu lieu jusqu'en 1992, jusqu'à l'élection de Bill Clinton, ont été peut-être plus mémorables que ceux qui ont suivi. En effet, depuis, je dirais que la qualité progressivement s'est dégradée et que ces débats sont devenus plus un spectacle, parfois même un match de catch, comme on l'a vu lors du débat, du premier débat Trump-Biden.
Alors, il y a quand même le débat Reagan-Mandel qui, beaucoup pensent, a quand même changé la trajectoire de l'élection.
Oui, absolument. Et si vous me demandez celui dont je me souviens le mieux, c'est effectivement celui-là. Lorsqu'un journaliste avait demandé l'âge de Ronald Reagan, qui avait alors 73 ans, presque jeune, comparé à nos candidats de cette année, il avait répondu « Je me refuse à utiliser l'âge comme sujet de campagne. Je ne veux pas profiter de la jeunesse et de l'âge. Je ne veux pas exploiter la jeunesse et ni l'expérience de mon rival. » Et même Walter Mondale, qui avait tout de même à l'époque à peu près la cinquantaine, a souri. Mais c'est quelque chose, je crois, que tous les Américains et tous ceux qui ont suivi les débats se souviennent encore aujourd'hui.
Peut-être la leçon, c'est qu'on peut toujours tourner ce qui peut être vu comme un désavantage en avantage.
Absolument, absolument. Et je pense que la meilleure carte que puisse jouer un candidat dans une situation pareille, quand il est en difficulté, c'est l'humour. Et l'humour, en général, est toujours un bon moyen d'attirer les électeurs.
Claude Porcella, ancien chef du service francophone de la Voix de l'Amérique. Pour le reste de l'actualité, en Guinée, les violences se sont poursuivies ce jeudi à Conakry et à l'intérieur du pays. Au moins une personne a été tuée selon plusieurs sources concordantes. La Commission électorale nationale indépendante, elle, a donné une vingtaine de résultats qui confortent une avance du président Alpha Condé sur son principal opposant, Sélou d'Alain Diallo, qui, lui, a revendiqué sa victoire dès le premier tour du scrutin du 18 octobre. Le point avec Zakaria Camara, notre correspondant en Guinée.
Sur les 22 résultats rendus publics, dont ceux de la région Afrique, l'opposant Sélou d'Alain Diallo arrive premier dans seulement 8 circonscriptions. Selon la Commission électorale nationale indépendante, il ne reste plus que les résultats de la République démocratique du Congo, de la Gambie et Mamou, une ville carrefour située à 245 km de Conakry. Mais si les tendances sont favorables au président sortant, les partisans de son principal opposant revendiquent toujours, et à travers des manifestations de rue, la victoire de leur candidat. Des violences sont signalées à Conakry et dans certaines villes de l'intérieur du pays. Au moins une personne a été tuée selon plusieurs sources concordantes. Ce jeudi, le ministre guinéen des Affaires étrangères a rencontré les ambassadeurs accrédités à Conakry. Selon Mamadi Touré, les ambassades de Guinée en Belgique, à New York, à Dakar et dans d'autres endroits sont victimes d'attaques. Une situation que le gouvernement prend très au sérieux, avertit le chef de la diplomatie guinéenne. Dans un communiqué diffusé en boucle à la télévision nationale, le ministre guinéen de l'administration du territoire dit avoir réquisitionné l'armée nationale guinéenne pour le maintien de l'ordre dans le pays. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a pris la parole jeudi soir. Sa première intervention depuis le début des manifestations des jeunes contre les violences policières. Ce discours du président nigérian était très attendu après plus de 10 jours de manifestations. D'Abuja, notre correspondant Gilbert Tamba.
Le président nigérien a commencé son discours par une mise en garde de ceux qui ont détourné et mal orienté la manifestation initiale qu'il qualifie d'authentique et bien intentionnée des jeunes contre les brutalités policières. Muhammadu Buhari dit avoir entendu les inquiétudes des populations face à l'usage excessif de la force par certains éléments de la police. Il a condamné les violences qui ont éclaté dans plusieurs états du pays ces derniers jours, regrettant que son silence ait été interprété comme une marque de faiblesse de sa part. Le résultat de ces violences est clair, souligne le président. Des vies humaines ont été perdues, des actes de violence sexuelle ont été signalés, 2 grands établissements pénitentiaires attaqués et des condamnés libérés, des propriétés publiques et privées complètement détruites ou vandalisées. En revanche, le président Buhari n'a pas dit un seul mot sur la répression violente des manifestations perpétrées par les forces de sécurité. Reste à savoir si cette sortie présidentielle va calmer les manifestants qui accusent des éléments de l'armée nigériane de tirer sur eux à balles réelles, faisant plusieurs victimes.
En Côte d'Ivoire, l'opposition a rejeté jeudi les concessions proposées par le pouvoir sur une réforme de la commission électorale pour mettre fin à son boycott de la présidentielle du 31 octobre. Le point avec Abdourahmane Dia.
Maurice Kakou Gikaoué, numéro 2 du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, a annoncé que l'opposition maintenait son mot d'ordre de désobéissance civile et qu'il réitérait sa demande de médiation internationale. Il s'exprimait lors d'une conférence de presse au nom de Henri Konan Bédié, ancien président et chef du PDCI, et de Pascal Afinguesan, qui dirige une partie du Front populaire ivoirien. Mercredi, le gouvernement avait ouvert la porte à une réforme de la commission électorale indépendante indépendante que l'opposition juge inféodée au régime du président Alassane Ouattara. Le gouvernement a proposé d'examiner favorablement l'octroi d'un poste supplémentaire à l'opposition dans la CEI centrale et la recomposition des CEI locales. À un peu plus d'une semaine de l'élection présidentielle, la Côte d'Ivoire est plongée dans une violente crise post-électorale qui a fait une vingtaine de morts depuis le mois d'août.
L'espoir à présent avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. La demi-finale retour de la Ligue des champions CAF qui devait être jouée samedi entre le Raja et le Zamalek a été reportée au 1er novembre en raison des cas de Covid-19 dans l'équipe marocaine. La CAF a été informée mardi de 8 cas de Covid-19 parmi les joueurs du Raja de Casablanca et du confinement du club jusqu'au 27 octobre, écrit l'instance africaine dans un communiqué. L'autre demi-finale retour entre Al Ahly SC et le Wydad de Casablanca est maintenue pour ce vendredi et la finale reste prévue le 6 novembre prochain. Samedi et dimanche dernier, lors des demi-finales aller, les clubs égyptiens Al Ahly et Zamalek sont sortis vainqueurs de leurs duels respectifs avec les Marocains du Wydad et du Raja. Les deux matchs se sont soldés par une victoire 1-0 des Égyptiens. Le Kenya a son nouveau sélectionneur. Après sa séparation d'avec Francis Kimanzi, la Fédération kenyane de football a nommé Jacob Muli pour lui succéder. Le technicien kenyan de 52 ans qui a signé un contrat de 3 ans va diriger les Harambee Stars pour la 5e fois après son dernier passage à la tête de l'équipe nationale en 2010. Surnommé Ghost, Muli a qualifié le Kenya pour la CAN Tunisie 2004. Il va commencer son boulot dans moins d'un mois lors des éliminatoires de la CAN 2021. Le Kenya, qui compte 2 points dans son groupe, fera face aux Comores en double confrontation. En Europe, la superstar de la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo, a encore été testé positif au Covid-19, mais il reste une chance qu'il participe au choc de Ligue des Champions contre le FC Barcelone de Lionel Messi mercredi prochain. Le Portugais de 35 ans a obtenu un nouveau test positif après celui annoncé le 13 octobre, alors qu'il était en sélection, assure Sky Sport Italia et la Gazzetta dello Sport. L'attaquant vedette, qui ne présente pas de symptômes, vit à l'isolement dans son domicile turinois, d'où il diffuse sur les réseaux sociaux des images le montrant en train de se maintenir en forme. Le quintuple Ballon d'Or a jusqu'à lundi, soit 2 jours avant le choc contre le Barça, pour présenter un résultat négatif selon le protocole médical de l'UEFA. La Juve a réussi ses 2 buts en Ligue des Champions en allant s'imposer chez les Ukrainiens du Dynamo Kiev 2-0 mardi grâce à un doublé d'Alvaro Morata pendant que le FC Barcelone se débarrassait des novices hongrois du Ferencváros 5-1.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie, Idrissa Seludia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Nigeria, la tension avait baissé d'un cran jeudi, avant le discours du président Muhammadu Buhari. Au moins 38 personnes avaient été tuées mardi à travers le pays, dont 12 à Lagos. Accusés d'avoir tiré à balles réelles sur 2 rassemblements, selon Amnesty International, l'armée et la police nient leur implication. L'ONG parle de 56 personnes tuées depuis le début de la contestation. Lagos est sous couvre-feu pendant que les manifestants luttent depuis 2 semaines contre les violences policières et la corruption. Pour une analyse, Yacouba Ouédraogo a joint jeudi le professeur Amoussou Tundonou, ancien recteur de l'Université de l'État de Lagos.
À un moment, il y a eu des gens qui ont préféré envoyer des loubards pour justement déranger ceux qui manifestaient tranquillement. La police a décidé ensuite pratiquement d'aider ces loubards-là. Parce que les manifestations, en général, ont commencé avec souvent des jeunes qui ont quand même des niveaux d'études bac plus licence et autres. Et vous imaginez que ce ne sont pas ces gens-là qui vont casser les voitures, qui vont mettre le feu à des bâtiments et tout. Maintenant, évidemment, il y a des démentis de part et d'autre. On dit qu'il est responsable, qu'il ne l'est pas. De toute façon, moi, ce que j'ai pu voir, c'est qu'à un moment donné, il paraît que les forces de l'ordre ont eu la terrible idée de se retirer. Et que quand on a commencé à tirer à barre réelle, c'est au moment où on a coupé le courant.
Le vice-président Yemi Osinbajo a dit que justice sera rendue aux victimes. Le président Muhammadu Buhari ne s'est pas encore exprimé sur les fusillades et cela fait l'objet des critiques hein, sur la toile. Pourquoi le silence du président là-dessus?
C'est vraiment dommage. Un président de la République doit prendre les choses en main. Ce n'est pas l'idée, la bonne idée d'envoyer son numéro 2. Alors que s'il avait pris la parole dès le départ, on aurait quand même pu avoir une meilleure solution.
Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, le département d'État américain, l'Union européenne et l'ONU ont tous condamné ces violences. Est-ce que vous pensez que ça puisse être une sorte de pression sur le pouvoir d'Abuja?
Non. Franchement, moi je crois que le pouvoir fait le dos rond. C'est pourquoi justement, jusqu'ici, il n'y a pas eu de réaction de la part du président de la République. Et c'est vraiment dommage parce que dans une démocratie, il faut que quelqu'un parle au nom de la République. Et c'est le président qui doit le faire.
Est-ce que l'effet du temps et le couvre-feu joint à la répression pourrait décourager les manifestants?
Non, dans un premier temps, ça pourra décourager de toute façon. Quand il y a couvre-feu, n'est-ce pas, c'est une manière d'inviter les militaires à reprendre les actions. Parce que quand il y a couvre-feu, alors que les gens n'ont rien à manger, il faut absolument qu'ils mangent quand même, qu'ils sortent pour aller chercher de quoi manger. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui vivent au jour le jour, surtout au Nigeria, à Lagos. Et maintenant, quand il y a couvre-feu de 3 ou 4 jours, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment est-ce qu'ils vont vraiment survivre? S'ils arrivent à réprimer dans un premier temps pendant 2 ou 3 jours, je crois que la reprise, si on ne prend pas garde, la reprise sera encore plus terrible.
Au départ, les manifestants appelaient à dissoudre la SRAT, cette unité spéciale de la police accusée d'exactions sur les populations. Le gouvernement a dit dissoudre la SRAT. Ensuite, les manifestants réclament plus de transparence et donc lutte contre la corruption et la mauvaise gouvernance. Est-ce que il y a cette frustration profonde qui justifierait ce ras-le-bol?
Ah oui, quand même. Je ne vois pas comment certains arrivent même à boucler la semaine avec le salaire qu'on leur propose. Ça ne fait même pas $100 aujourd'hui. Il y a le ras-le-bol. Et de l'autre côté, vous voyez, les parlementaires au Nigeria, ils gagnent encore plus que même les Américains, il paraît. On a eu gain de cause, n'est-ce pas, contre la police. Mais il y a d'autres problèmes encore. Et c'est pourquoi, moi je me dis que les manifestations, ce n'est que le début, parce qu'il faudra quand même qu'on trouve une solution à long terme à tout ce qui ne va pas au Niger.
Le professeur Amoussou Tundonou, ancien recteur de l'Université de l'État de Lagos, joint jeudi à Lagos. En Côte d'Ivoire, à quelques jours de la présidentielle du 31 octobre, les violences ont gagné du terrain dans certaines localités. Dabou, ville située à l'ouest d'Abidjan, a connu mercredi l'un des épisodes les plus meurtriers depuis le début des manifestations contre la candidature du président Alassane Ouattara à un troisième mandat. Le point avec notre correspondante Aïcha Diarra.
Au moins 7 morts selon les chiffres officiels et plus d'une dizaine d'après les populations jointes sur place. La tension n'a cessé de monter depuis le lundi 19 octobre dernier jusqu'à hier mercredi dans la ville de Dabou et ses environs. Joint au téléphone, Malik Camara fait le film de la journée d'hier.
Ils ont d'abord attaqué un quartier Mangoussou. C'est un plan de guerre qu'ils ont fait. Ils nous ont passé, on était tous dans la ville. Donc Mangoussou, il est un peu reculé au fait. Donc ils nous ont attaqué par là-bas. On est allé, on va donner un coup de pouce à ceux de là-bas. Ils ont cherché à rentrer dans la ville maintenant. On les a repoussés. C'est qu'on a constaté parce qu'ils ont brûlé des maisons. Et ces maisons qu'ils ont brûlées, il y avait des femmes, donc ils n'ont pas touché à ces femmes-là. Donc ces femmes-là nous ont dit qu'ils parlaient de l'anglais. Donc on constate qu'il y a les miliciens parmi nous ici même. Donc la situation est très dégradante ici à Dabou, très dégradante.
Des hommes bien organisés qui veulent créer des conditions d'une guerre interethnique pour cet homme qui a préféré garder l'anonymat.
On a été attaqué vraiment par une organisation qui n'a rien à voir avec les Adjoukous. Voilà, les Adjoukous ont été instrumentés, nous on a été instrumentés pour faire divergence ou des dissensions, je ne sais pas. Mais pour nous occuper à autre chose, pouvoir faire autre chose. C'est hier même nous nous sommes rendus compte que c'est au-delà d'une histoire de douleur.
Selon des adjoukous que nous avons eu au téléphone, eux, ils souhaitaient uniquement faire une marche pacifique lorsqu'ils ont constaté qu'il y avait des infiltrés parmi eux qui créent le désordre. Le maire de Dabou, Jean-Claude Yédé Niang, et le préfet de la ville, Rémi Nzikanga, disent la même chose. Théâtre de pillage et d'affrontement à l'arme blanche comme à l'arme automatique, il a fallu l'intervention de renfort de la gendarmerie venue d'Abidjan pour ramener le calme à Dabou. Aïcha Diarra depuis Boaké pour VOA Afrique.
Au Sénégal, des centaines de ressortissants guinéens ont marché sur l'ambassade de Guinée à Dakar pour protester contre la tournure de la présidentielle dans leur pays. Dispersés à coups de grenades lacrymogènes par le groupement d'intervention de la police sénégalaise, les citoyens guinéens résidant à Dakar n'ont pas dit leur dernier mot. Précision de notre correspondant Seydina Abagué.
Privés de vote par leur gouvernement qui a décidé de ne pas organiser le scrutin sur le territoire sénégalais, les citoyens guinéens établis au Sénégal ne se sont pas pour autant désintéressés de ce qui se passe dans leur pays. Et pour que leur voix soit audible à défaut d'être comptabilisée, ils sont sortis dans les rues de Dakar, comme l'explique Mohamed Diallo, ex-président de l'Amicale des élèves, étudiants et stagiaires guinéens au Sénégal.
Ça, c'est la conséquence du non-vote des Guinéens ici au Sénégal. C'est un sentiment de frustration parce que cette marche n'a jamais été planée. C'est venu. Tout comme ça, les gens se sont appelés après la proclamation des premiers résultats en Guinée. A priori, Alpha Condé il a perdu, il a changé les résultats. Les gens sont frustrés pourquoi ils n'ont pas voté ici. Ils sont plus de 3 millions de Guinéens au Sénégal. Donc je pense que les gens expriment leur ras-le-bol suite à l'injustice que nos frères aussi subissent en Guinée.
Membre du comité ayant piloté le processus de recensement des électeurs guinéens au Sénégal, Mohamed Diallo donne des détails sur les couacs ayant abouti à l'échec du processus.
L'ambassade ici et le parti au pouvoir, le gouvernement guinéen, ils ont tout fait pour qu'il n'y ait pas révision ici. Maintenant, les gens se sont frustrés, ils se sont pris à l'ambassade, ils ont bloqué, c'était sciemment fait, c'est des coups politiques parce qu'ils estiment ici c'est un bastion de l'opposition. Nous sommes plus de 3 millions de Guinéens ici, donc a priori au moins les 1 700 000 allaient voter, donc ils savent que c'est un bastion qu'il faut sciemment écarter.
Cette situation au Sénégal et celle qui prévaut en Guinée n'augure rien de bon, d'après le journaliste guinéen Mamoudou Yaya Baldé. Pour lui, la Guinée court droit vers le mur.
Nous n'avons pas un état de droit. Nous avons un état policier, un état violent qui a toujours brillé dans la répression. Donc voilà d'abord la nature de l'état. On ne peut pas comprendre les exactions qui sont en train d'être commises aujourd'hui lorsque vous ne pouvez pas comprendre la nature de l'état que nous avons. Et l'histoire politique de notre pays, et surtout la sociologie électorale de notre pays, elle est caractérisée par la fraude, la violence et les contestations. Donc je pense qu'aujourd'hui, tout est réuni pour qu'il y ait une explosion en Guinée.
Les ressortissants guinéens au Sénégal ne comptent pas baisser d'intensité dans la contestation, mais ils appellent également la CEDEAO, l'Union africaine et la communauté internationale à agir. D'après eux, si la Guinée sombre, les pays limitrophes comme le Sénégal seront les premiers impactés. À Dakar, Seydina Abagueye pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
En Centrafrique, des chefs de milices accusés de graves crimes courent toujours. C'est ce qu'a déploré ce jeudi Amnesty International dans un rapport. L'ONG dénonce l'impunité des chefs des milices qui contrôlent les deux tiers du pays et qui ne sont pas déférés devant la justice, malgré l'ampleur des violations des droits humains dans ce pays ravagé par 7 années de guerre civile. Pour une analyse, Bagassi Koura a joint à Dakar le chercheur sur l'Afrique centrale à Amnesty International, Abdoulaye Diarra.
Ce que nous disons effectivement sur les responsables, ceux qui sont soupçonnés d'être les principaux responsables des crimes de guerre, c'est que en 2014, nous avions publié un rapport au sein duquel nous avions mentionné plusieurs responsables de groupes armés, qu'ils soient anti-Balaka ou ex-Séléka. Et à ce jour, hormis deux responsables qui ont été présentés à la CPI, ces chefs de guerre continuent à bénéficier de l'impunité.
Alors quand vous dites impunité, de quel genre de crime s'agit-il?
Il s'agit de crimes de droit international, de graves violations des droits de l'homme. Donc parmi les crimes, nous avons les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité. On a documenté des cas de violences sexuelles, des assassinats, des incendies volontaires de domicile. Et nous avons aussi documenté plusieurs cas de violences communautaires qui ont visé et les communautés musulmanes et les communautés chrétiennes en Centrafrique.
Le chercheur sur l'Afrique centrale à Amnesty International, Abdoulaye Diarra. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Edrissa Segudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.